Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans les explications données par les Pères sur le chapitre 3e de l'Évangile selon saint Matthieu. On est sur le polycopier à la page 22. Au dernier cours, j'ai parlé un peu de la nécessité, surtout en matière d'exégèse, d'enseigner dans l'esprit de l'Église, c'est-à-dire d'enseigner tel que l'Église a toujours enseigné, de penser tel que l'Église a toujours pensé, et d'agir tel que l'Église a toujours agi. Et je vous ai parlé, j'ai dit deux mots sur des règles peu connues qui s'appellent les règles de fidélité à l'Église, qui sont une partie des exercices de saint Ignace, mais qu'on n'a pratiquement jamais le temps d'expliquer. Au retraite de 5 jours, par manque de temps, on les explique simplement au retraite du mois, d'un mois complet. Je voudrais, avant de continuer les explications des Pères sur le chapitre 3e de saint Matthieu, vous en donner quelques-unes pour vous aider à comprendre ce qu'enseigne saint Thomas d'Aquin, saint Ignace de Loyola. Et vous verrez que ces règles n'ont pas pris une rigue. Et s'il y a un domaine dans lequel la fidélité à la tradition est absolument indispensable, c'est bien le domaine de l'exégèse. Et s'il est un domaine dans lequel les modernistes ont fait un travail de sape systématique de tout ce qui était enseigné par les Pères, c'est bien celui d'exégèse. Donc pour pouvoir nous défendre en tant que catholiques, qu'est-ce qu'il faut? Je vous l'ai déjà dit souvent, il faut essayer de savoir quels sont les points les plus attaqués par l'Église de Vatican II, par le monde, c'est la même chose, par les ennemis de l'Église, c'est encore la même chose. Il faut trouver ces points les plus attaqués par l'Église de Vatican II, par Bergoglio, ses pompes et ses œuvres, et défendre précisément ces points-là. Et s'il y a un des points qui est attaqué, c'est bien l'exégèse. Dès qu'on parle à des modernistes de l'exégèse traditionnelle de l'Église, tout de suite, on voit que les gens s'énervent. Il n'en est pas question, c'est beaucoup trop ancien, c'est du temps du Moyen-Âge, tout ça c'est fini, c'est terminé, il faut maintenant une exégèse positive, moderne. Eh bien, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église. Il faut rester sur le chemin que nous a tracé l'Église pendant 20 siècles parce que les gens d'Église, les saints, le magistère de l'Église connaissent beaucoup mieux que les modernistes ce qu'il faut faire. Je vous donne quelques-unes de ces règles de saint Ignace de Loyola dans ses exercices de saint Ignace. Il les a intitulées « Règles de fidélité à l'Église ». Vous verrez que ça s'applique tout à fait à notre sujet. Première règle, dit-il, « Renoncer à tout jugement propre ». Et se tenir prêt à obéir promptement à la véritable épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est-à-dire à la Sainte Église hiérarchique, notre Mère. Donc avoir une dévotion filiale à l'égard de l'Église. Deuxième règle, louer la confession sacramentelle, la réception du Saint-Sacrement de l'Eucharistie au moins une fois dans l'année, beaucoup plus tous les mois et encore plus chaque semaine, avec les dispositions requises et convenables. Troisième règle, louer l'usage d'entendre souvent la Sainte Messe, louer de même les chants ecclésiastiques, la psalmodie et les prières, même prolongées dans l'église ou dans tout autre lieu convenable. Approuver la détermination de certaines heures pour la célébration de l'office divin, pour la récitation des heures canoniales et de toute autre prière. Quatrième règle, louer beaucoup les ordres religieux, la virginité et la continence, et ne pas louer autant le mariage. Cinquième règle, louer les vœux de religion, d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, et les autres par lesquels on s'oblige à des œuvres de surérogation et de perfection. Or, il est à remarquer que le vœu ayant essentiellement pour matière les choses qui se rapprochent davantage de la perfection évangélique, on ne doit point faire vœu de ce qui s'en éloigne, comme d'entrer dans le commerce ou de s'engager dans le mariage. Bon, je passe sur certaines règles, je n'ai pas le temps de toutes vous les lire. Louer enfin tous les préceptes de l'Église et être toujours prêt à chercher des raisons pour les justifier et les défendre et jamais pour les condamner et les blâmer. Quand un fils aime sa mère, aime son père, eh bien il défend ses parents. C'est ce que nous devons faire par rapport à nos parents spirituels, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés et l'Église qui est notre mère. Onzième règle. Louer la théologie positive et scolastique. Théologie scolastique, c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin. Car, comme c'est particulièrement le propre des docteurs positifs, tels que saint Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire et les autres, d'exciter les adhésions du cœur pour que, en tout, nous aimions et servions Dieu notre Seigneur, ainsi le but principal des scolastiques, tels que saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, le maître des sentences et ceux qui les ont suivis, est de définir et d'expliquer, selon le besoin des temps modernes, les choses nécessaires au salut éternel. D'attaquer et de manifester clairement toutes les erreurs et les faux raisonnements des ennemis de l'Église. En fait, plus récents que les premiers, non seulement ils se servent avantageusement de l'intelligence de la Sainte Écriture et des écrits des saints docteurs positifs, mais, éclairés et enseignés eux-mêmes par la vertu divine, ils cèdent encore par notre instruction, pour notre instruction, des conciles, des canons et des constitutions de notre Mère, la Sainte Église. Vous voyez, il faut que ces cours, non seulement nous aident à connaître l'Écriture sainte, c'est sûr que c'est un début du cours, mais nous aident surtout à aimer l'Église. Parce que si j'aime l'Écriture sainte mais je n'aime pas l'Église, je perds mon temps. Parce que l'Écriture sainte appartient à l'Église catholique, appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, attention, il faut continuer de faire et d'enseigner ce que l'Église a toujours enseigné. C'est la conclusion de saint Ignace de Loyola dans ses règles pour sentir avec l'Église. Voilà la 18e règle. Bien que nous devions surtout désirer que les hommes servent Dieu notre Seigneur par le motif du pur amour, nous devons cependant louer beaucoup la crainte de la Divine Majesté. Car non seulement la crainte filiale est pieuse et très sainte, mais la crainte simplement servile lorsque l'homme ne s'élève pas à beaucoup, quelque chose de meilleur et de plus utile, l'aide beaucoup à sortir du péché mortel. Et lorsqu'il en est sorti, il parvient facilement à la crainte filiale qui est tout agréable et cher à Dieu, parce qu'elle est inséparablement unie à son amour. Il faut demander, lorsqu'on étudie l'exégèse, donc demander l'amour de l'Église, l'amour des pères, l'amour, avoir l'interprétation des pères de l'Église. Lorsqu'on lit un texte un peu compliqué, surtout l'Écriture sainte, surtout des évangiles, ou des épîtres de saint Paul, ou des autres épîtres, au lieu de se dire, après avoir lu tel passage, « Je pense que », il faut se poser la question, qu'en pensent les pères de l'Église? Qu'en pense saint Jérôme? Qu'en pense saint Bonaventure? Qu'en pense saint Thomas d'Aquin? Qu'en pense saint Ambroise, saint Augustin, saint Jean Chrysostome sur ce sujet-là? Et puisqu'il y a des textes écrits par eux qui nous expliquent comment interpréter ce passage qui est un petit peu compliqué dans l'Écriture sainte, eh bien, par avance, je m'aligne sur ce qu'ont dit tous les pères. Alors, revenons maintenant à nos moutons. On en est sur le Polycopie à la page 22. On est en train d'analyser les versets 11 et 12 du chapitre 3e de saint Matthieu. Voilà le texte. Moi, c'est saint Jean-Baptiste qui parle. Je vous baptise dans l'eau pour la pénitence. Mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, dans le feu. Il a son van dans sa main et nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. Nous avons déjà en partie expliqué tout cela. Donc, saint Jean-Baptiste donne un baptême qui n'est pas encore un sacrement, c'est un sacramental pour nous préparer au sacrement, ce qu'on appelle le baptême de pénitence. Il prépare le baptême d'eau, le baptême sacramental donné, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui va effacer les péchés. Donc, saint Jean-Baptiste n'a pas le pouvoir d'effacer les péchés directement. Il va effacer les péchés indirectement dans le sens que Saint Jean-Baptiste prépare les âmes à s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque on peut pas obtenir la confession de quelqu'un directement, par exemple par absence de prêtre, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, simplement, pas simplement les prêtres doivent le faire, mais également les laïcs. Bon, vous savez que vous êtes en état de péché mortel, vous êtes dans un lieu où il n'y a malheureusement pas de prêtre, véritablement prêtre autour de vous, vous ne pouvez pas vous confesser en peut-être plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous devez faire? Obtenez, de par la grâce du bon Dieu, un acte de contrition parfaite pour vos péchés. Regrettez vos péchés par pur amour du bon Dieu, et cet acte de contrition parfaite effacera tous les péchés, même sans confession. Alors, reprenons un petit peu donc cette idée de notre Seigneur Jésus, que notre Seigneur Jésus-Christ donne dans son évangile. Donc en citant encore une fois Saint Jean-Baptiste, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que après avoir fait la moisson, donc les épis ont été ramassés, ils vont être placés sur l'aire, A-I-R-E, attention, L'A-I-R-E, la surface dans laquelle on va faire le vannage. Et là, les animaux domestiques, en général c'était des ânes, vont tourner sur cette aire pendant parfois des heures et des heures pour écraser, si vous voulez, les épis et séparer ainsi le grain de la paille. Puis on va envoyer, je vous l'ai expliqué la dernière fois, envoyer cette paille et ces grains mélangés dans l'air quand il y a du vent pour que le vent emporte la paille au loin et seuls les grains vont retomber. Alors voilà ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet. Donc nous en sommes à la page 22, deux paragraphes avant la fin de la page, en bas de la page 22, sur le polycopier. Donc les Juifs, disent les pères, sont les premiers qui l'ont, pour ainsi dire, vanné. Puis sont venus les gentils et après eux les hérétiques. L'Antéchrist viendra en dernier lieu. Donc, si vous voulez, dans le temps, il y aura donc quatre étapes. Première, c'est le premier peuple élu, les Juifs. Deuxièmement, le deuxième peuple élu qui sera les gentils, qui vont prendre la place des Juifs. Ensuite, les hérétiques vont venir pour essayer de corrompre les gentils. Et enfin, tout à fait à la fin du monde, donc l'arrivée de l'Antéchrist. Les pères précisent, lorsque le souffle du vent est faible, tout le grain n'est pas vanné. Il n'y a que les pailles les plus légères qui soient secouées, les plus pesantes restent dans l'air. Ainsi, qu'une légère tentation vienne à souffler, les plus mauvais seuls se retirent. Et qu'une violente tempête s'élève, on voit disparaître ceux qui paraissaient les plus stables. C'est pourquoi les grandes épreuves sont nécessaires à l'Église pour la purifier entièrement. Dit sous une autre forme, on pourrait dire qu'il ne peut pas y avoir de vie unitive sans vie illuminative et pas de vie illuminative sans vie purgative. Donc il ne peut pas y avoir de vie unitive sans vie purgative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas éliminer complètement le péché mortel et le péché vénien de notre âme sans commencer d'abord par une purification de notre âme, qu'on appelle la vie purgative. Purgare en latin, encore une fois, ça veut dire se purifier. Donc les grandes épreuves sont nécessaires à l'Église pour la purifier entièrement. On voit très bien ça, par exemple, dans la crise arienne. Au début de l'histoire de l'Église, il y a eu Arius qui a développé ses hérésies, niant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il considérait que notre Seigneur Jésus-Christ était la première des créatures, donc simplement une créature et pas Dieu. Eh bien, le monde entier pratiquement s'est réveillé à rien, à peu de choses près, comme disaient les pères de l'époque. Il n'y a eu que très peu de pères de l'Église à l'époque qui ont tenu la route pour justement continuer ce que l'Église a toujours enseigné. Il y a eu par exemple Saint Hilaire, il y a eu Saint Athanase, hein, qui se sont dressés contre Arius. Et c'était une épreuve terrible. Eh bien, lorsque la crise s'est terminée, l'Église s'est relevée plus forte. On le voit aussi très bien que les grandes persécutions, depuis la première persécution sous Néron en 67 jusqu'à la dernière sous Dioclétien en 313, eh bien il y a une dizaine de grandes persécutions, des millions de martyrs, mais l'Église est sortie de ces persécutions encore plus forte. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui encore nous sommes persécutés. C'est pas le même genre de persécution que les catholiques devaient supporter au début de l'Église. Ce sont des persécutions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus difficiles à détecter. Nous sommes persécutés par non pas des gens qui se présentent officiellement contre l'Église, mais par des gens qui se présentent comme membres de l'Église. Je vous l'ai déjà dit souvent, pour moi, le plus grand persécuteur de l'Église actuellement, c'est de très loin Bergoglio, et qui se présente comme étant le chef de l'Église. Le problème est de savoir de quelle Église parle-t-il. Et donc, il faut comprendre cette phrase des pères, les grandes épreuves sont nécessaires à l'Église pour la purifier entièrement. C'est dans les épreuves que les soldats deviennent forts. C'est pendant la guerre qu'on voit où sont les vrais soldats, les bons soldats. Et c'est la même chose pour nous. Hein, si on vit sans aucune tentation, sans aucune distraction, c'est facile de conserver la foi. Le bon Dieu va voir où sont les bons catholiques, précisément dans les temps de tentation. Et les pères précisent, dernier paragraphe de la page 22, Dieu purifie aussi son air. Je vous ai expliqué que l'air, c'était l'Église catholique. Dès cette vie, soit lorsque le jugement des prêtres tranche les méchants du sein de l'Église, soit lorsque la mort les enlève de cette terre. Quels sont ces méchants qui sont enlevés, retranchés du sein de l'Église? Sont les hérétiques qui refusent de se convertir. Il y a cette différence, disent les pères, entre la paille et l'ivraie, que la paille sort de la semence du blé, et l'ivraie d'une semence étrangère. C'est pour ça que l'ivraie, dans le champ, qui envahit le champ de blé, a toujours été considéré comme un symbole de l'hérésie. Donc les pailles représentent donc ceux qui ont été imprégnés de la sève vivifiante des sacrements, mais qui n'ont aucune consistance. L'ivraie, ceux que les œuvres et leurs croyances sont totalement séparées de la destinée des chrétiens. Donc l'ivraie, si vous voulez, c'est le symbole de l'hérésie, de l'hérétique qui a complètement quitté l'Église. La paille, au contraire, représente, on pourrait l'expliquer comme ça, représente plutôt le symbole, c'est plutôt le symbole du libéralisme. Hein. L'imprégnation de la part de ceux, dans ceux qui ont été imprégnés par la sève vivifiante des sacrements, mais il manque une colonne vertébrale à ces gens-là. Les pères disent, il n'y a pas aucune consistance, vous voyez. Lorsque j'ai une foi, mais une foi qui n'est pas suffisamment forte pour tenir le coup dans les persécutions, ben j'ai une foi qui va devenir une foi libérale. Ça, on le voit très bien aujourd'hui. Donc comprenez ça, que la paille donc, représente, si vous voulez, ceux qui ne sont pas fermement attachés à l'Église, donc ils voltigent un peu comme des sauterelles, comme des papillons, et puis un coup de vent un peu plus fort que les autres, ils sont envolés, ils s'envolent, poussés par le vent de la tentation, le vent des concupiscences, et malheureusement, ils vont retomber hors de l'Église. Page 23, en haut de la page. Donc le froment, le grain lui-même, représente les œuvres, les bonnes œuvres des fidèles, les œuvres parfaites des fidèles, qui sera recueillie dans les greniers célestes. Les greniers célestes, c'est quoi? Bien, c'est les greniers de l'Église. Et les pailles, c'est-à-dire les actions vaines et stériles des hommes, seront brûlées par le feu du jugement. Donc il y a deux choses. D'une part, la paille qui est envoyée au loin, ensuite elle sera ramassée en botte et brûlée. La plupart du temps, utilisée comme un litière, comme pour être une litière pour les animaux, la plupart du temps, surtout à l'époque, il l'a brûlée. Bon, ça représente les actions vaines et stériles des hommes qui vivent dans le péché mortel, qui meurent dans le péché mortel et qui vont bientôt, disent les pères, être brûlés par le feu du jugement. Alors, le baptême est une notion complètement nouvelle. Aucun des autres prophètes, sauf Saint Jean-Baptiste et Ézéchiel, n'ont utilisé le baptême. Il y a un texte d'Ézéchiel. Au chapitre 36, qui dit « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toute votre impureté. » C'est une annonce d'un sacrement qui n'était pas encore arrivé. Donc, vous voyez comme il est important de comprendre l'importance du baptême. Le baptême sacramentel est tellement important que Dieu a voulu le faire précéder par le baptême de pénitence de Saint Jean-Baptiste. Pour les choses très importantes, il faut des héros qui vont annoncer l'arrivée du Rédempteur. Et on voit ça surtout à la fin de l'Ancien Testament et au début du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, tout à fait au début, annonce déjà notre Seigneur Jésus-Christ, entre autres par la prophétie de Simon. Vous savez qu'il avait reçu la Sainte Famille, qui était allée présenter l'enfant Jésus au temple de Jérusalem le 2 février, et Siméon attendait, qu'est-ce qu'il va dire, hein? Cet enfant sera pour la ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. Donc on voit très bien que le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, et ici encore plus Saint Jean-Baptiste, sont là pour préparer l'arrivée de notre Seigneur, annoncer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les pères se posent la question de savoir pourquoi l'auteur sacré, le Saint-Esprit, donc insiste sur la sandale. Celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses sandales. Une autre version, dans d'autres textes semblables, d'autres évangiles, dit « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale ». C'est encore plus fort. Alors, qu'est-ce que représente cette sandale? Eh bien, Saint Bernard donne l'explication. Il explique que la majesté de Dieu fut chaussée avec la chaussure de notre humanité. Donc, la sandale portée par notre Seigneur Jésus-Christ représente la deuxième nature de notre Seigneur, la nature humaine. Il est Dieu, bien sûr, il y a la nature divine, mais il y a aussi la nature humaine. Les chaussures étant, disent les pères, portées aux extrémités du corps et faites de la peau d'animaux morts, elles représentent effectivement l'incarnation du Christ. Par les chaussures, on comprend la descente du Christ sur la terre, puis après sa mort au limbe des patriarches. Donc la peau des animaux, à partir de laquelle sont faites les chaussures, représente donc l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'union dans la même personne de la divinité avec l'humanité. On voit un petit peu la même image dans un autre passage, le passage du bon samaritain. Donc, il descend de Jérusalem, il rencontre quelqu'un qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, qui a été attaqué par les bandits et laissé sur la route à demi-mort. Et donc, le bon samaritain s'arrête et va soigner les plaies avec l'huile et le vin, l'eau, l'huile et le vin, et pour nettoyer ses pieds, ses plaies, panser ses plaies. Et qu'est-ce que dit le texte sacré? Le texte sacré nous dit qu'il va placer le moribond sur sa propre monture. Cette âne sur laquelle était assis le bon samaritain et qu'il va quitter pour laisser la place en quelque sorte au mourant, celui qui a été attaqué par les démons, eh bien cette âne représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc c'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ qui va porter nos misères, nos péchés. Donc, vous voyez, c'est important ce passage. Donc, la chaussure représente justement l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai Dieu, vrai homme. Celui qui a le vanne en main, le Christ juge. Le vanne est son jugement, par lequel il évente et examine les pensées, les mots, les actions de chacun. La paille représente les mauvais, le grain de juste, les justes et les saints qu'il va rassembler dans sa grange au royaume des cieux, avec lesquels, comme s'ils étaient du blé, il nourrira, réjouira la Sainte Trinité, les anges et toute l'Église triomphante. Vous voyez donc, le vannage du blé, donc ce blé mélangé, ces grains de blé mélangés à la paille qui sont jetés dans le vent pour séparer la paille du bon grain, est un symbole donc du jugement. Pas simplement du jugement particulier, mais surtout du jugement général. Le bon Dieu viendra avec ses apôtres, dans une nuée, sur les nuées du ciel, avec le signe de notre rédemption, la croix, il viendra pour séparer le bon grain de l'ivraie, séparer le bon grain de la paille. Donc la paille représente les pécheurs qui meurent en état de péché mortel, le bon grain représente les catholiques qui meurent en état de grâce, ou les juifs convertis qui vont pouvoir mourir en état de grâce. On voit très bien cette image qui est représentée dans beaucoup d'anciennes gravures du Moyen-Âge. On voit très bien ce jugement qui est très fréquent sur les frontons des basiliques, surtout des basiliques romanes. On voit ce jugement, si vous voulez, cette séparation avec le Christ Pantocrator, le Christ en majesté, au centre du tympan, et avec les bons à sa droite, les mauvais à sa gauche. Et parfois, sous notre Seigneur Jésus-Christ, assis en majesté, on voit la très sainte Vierge Marie et les douze apôtres qui vont venir pour juger les vivants et les morts avec le Christ. On voit ça aussi, par exemple, pas très loin d'ici, pour ceux qui connaissent un peu, il y a une église assez spéciale, c'est unique en son genre, c'est l'église Sainte-Cécile à Albi. Eh bien, quand on rentre dans la cathédrale d'Albi, on rentre par le côté, par une espèce de baldaquin gothique, qui n'aurait d'ailleurs rien à voir avec le style même de l'extérieur de l'église. C'est une église construite entièrement en briques, c'est un peu spécial comme puissance matérielle, si vous voulez. C'était le symbole d'un vaisseau ancré contre les hérésies cathares. Eh bien, quand on rentre dans l'église de Sainte-Cécile, la cathédrale d'Albi, eh bien, à gauche, au fond de la nef, il y a une magnifique représentation du jugement dernier. Malheureusement, il en manque une partie, parce qu'ils ont creusé une porte au milieu et donc il manque la partie centrale. Mais on voit très bien la séparation entre les bons et les mauvais en 7 panneaux distincts, chaque panneau représentant un des défauts, des péchés capitaux. Et on retrouve ça par exemple aussi sur le magnifique tympan la basilique de Conques, l'église de Conques, où on voit encore notre Seigneur Jésus-Christ qui sépare les bons et les mauvais, donc qui sépare le grain de l'ivraie ou de la paille, la paille l'ivraie représentant les mauvais, le grain représentant les bons, donc une séparation entre les deux. On voit donc les bons qui montent vers le ciel et au contraire les mauvais qui sont eux attirés, tirés par les démons pour tomber en enfer et brûler pour toute éternité. Donc voilà ce que disent les pères. Celui qui a le vent, le vanne, pardon, en main est le Christ juge. Le vanne est son jugement par lequel il évente, examine les pensées, les mots, les actions de chacun. La paille représente les mauvais, le grain, les justes et les saints qu'il va rassembler dans sa grange. Le royaume des cieux, avec lesquels, comme s'ils étaient du blé, il nourrira et réjouira la Sainte Trinité, les anges et toute l'Église triomphante. Et donc, il faut méditer sur cette très belle image, donc une image très connue des Juifs, parce qu'ils voyaient ça tous les jours dans les champs, pendant la période des moissons, donc la séparation entre le bon grain et la paille et l'ivraie. Versets 13, 14 et 15, du chapitre 3e de Saint Jean, toujours à la page 23 sur le polycopier. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'écartait, c'est Saint Jean-Baptiste, hein. Il l'écartait en disant, c'est moi qui dois être baptisé par vous, et venez à moi. Mais Jésus répondant, lui dit, laissez faire maintenant, car c'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. Alors Jean le laissa faire. Donc c'est la créature qui accueille le créateur, le fini qui accueille l'infini, l'humain qui accueille le divin uni à l'humanité. Et donc, Saint Jean-Baptiste, qui savait très bien que celui qui s'approchait de lui était le Messie, donc littéralement va tomber à genoux auprès de Dieu fait homme, et va être tout tremblant à l'idée de devoir baptiser notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, si vous voulez, une créature de rien du tout qui doit baptiser son Créateur. Il savait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, n'avait pas besoin de lui baptiser, parce qu'il n'y a pas le péché originel. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet-là. De même, disent les pères, que le soleil n'attend pas pour se lever, que l'étoile du matin est disparue, mais qu'il se lève alors qu'elle est encore sous l'horizon et qu'il éclipse sa blanche clarté par l'éclat de ses rayons. Ainsi, le Christ n'a pas attendu que Jean eût achevé sa carrière, mais il s'est manifesté au monde pendant que son précurseur enseignait encore. Autrefois, c'était les eaux qui retournèrent en arrière. Ça, c'est une référence à la traversée de la mer Rouge par les Juifs en sortant d'Égypte. Maintenant, ce sont les péchés. De même que le prophète Élie avait séparé les eaux du Jourdain, ainsi, dans ce même fleuve, le Christ a opéré la séparation des péchés. Donc, qu'est-ce qu'annonce notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ va annoncer par la bouche de Saint Jean-Baptiste que le salut va venir. Justement, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va donner un moyen, en quelque sorte, par le sacrement de baptême, d'effacer les péchés. Et donc, on retrouve la même idée, si vous voulez, la séparation de la mer Rouge, qui est symbole du baptême, symbole de la Sainte Eucharistie, symbole aussi de l'Église. Donc, les Hébreux qui s'enfuient traversent à pied sec, et les Égyptiens qui poursuivent les Hébreux représentent les ennemis de l'Église. Donc les hérétiques et tous les ennemis de l'Église qui ne veulent pas se convertir. Donc qu'est-ce que fait notre Seigneur? Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu va donner l'ordre à Moïse qui va présenter de nouveau son bâton de marche. Il va baisser son bâton et à ce moment-là, les eaux vont revenir à leur place et noyer toute l'armée des pharaons, du pharaon. C'est le symbole évidemment du pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ par la sainte absolution du prêtre d'effacer tous les péchés. Alors, il y a une petite note à la page 23, au milieu de la page, de saint Thomas d'Aquin, donc dans la Tertia Pars, question 66, article 2, c'est la référence. Il pense que le jour même où il fut baptisé, le Christ institua le sacrement de baptême, non pas par des mots, mais en action, car les trois personnes de la Sainte Trinité apparurent alors au nom desquelles le baptême est donné. Le Père se manifesta par sa voix, le Fils apparut dans le Jourdain, et le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est la fin du chapitre 3 de Saint Matthieu. Donc il voit venir du ciel, disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. Voici que les cieux furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe et qui vint à lui. Donc trois choses. D'une part, notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne, la Sainte Trinité, Dieu le Fils qui descend dans l'eau du baptême. Le Saint-Esprit qui est manifesté par la colombe qui vint se poser sur sa tête. Et enfin, la voix de Dieu le Père qui parle, que tout le monde peut entendre. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui je me suis confié, en qui j'ai mis mes complaisances. Une autre traduction tout aussi bonne que la première. Donc, on demanda une fois d'autres passages des Pères que j'ai sélectionnés ici, page 23. On demanda une fois à saint Thomas à quelle marque pouvait être connue une personne parfaite. Il répondit que c'était par l'humilité, le mépris de soi-même, des honneurs et des louanges, en supportant les ignominies et les reproches. Si vous voyez quelqu'un qui est négligé et méprisé, qui voit les autres qui lui sont préférés manifester de la peine et de l'indignation, avec une mine basse et énervée, le front plissé, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas un saint, même si vous le voyez faire du miracle. Il montre alors son orgueil et se fait vite vil. Il se fait vite vil et méprisant. Il y a une histoire que j'ai déjà citée, qu'on rencontre dans, si mes souvenirs sont exacts, dans les conférences de Cassien, sur les moines du désert. Donc, il y avait un moine dans le désert, dans une caverne, qui faisait des petites pénitences épouvantables. Certains ne mangeaient qu'une fois par mois, hein, pratiquement rien du tout. Et ce moine faisait de grands miracles. Le démon s'approche de lui furieux en disant « Tout ce que tu fais, je le fais. Toi, tu manges une fois par mois, moi, je mange jamais. Toi, tu ne dors qu'une heure par nuit, moi, je dors jamais. Hein? » Et le démon fait comme ça la liste de toutes les pénitences épouvantables que fait la corette, donc le moine. Et à chaque fois, le démon compare avec ce qu'il fait lui, dit « Moi, je fais 10 fois plus que toi. Toi, tu souffres dans la pénitence. Moi, je souffre tout le temps, constamment, à longueur de journée. » Et il finit par lui dire « Il n'y a qu'une seule chose que tu fais que je ne puis faire. » « Laquelle ?» demanda le moine. « M'humilier, dit le démon. M'humilier. Ça, tu le fais. Moi, je suis incapable de le faire. » Et il est disparu à ce moment-là, vous voyez. Donc l'humilité est vraiment la vertu qui nous protège contre le démon. Pourquoi ? Parce que le péché de base du démon, c'est l'orgueil. Non, ne servir, je ne servirai pas. Et donc contre cet orgueil, mais il faut pratiquer la vertu contraire. Et la vertu contraire à l'orgueil, c'est la vertu d'humilité. Alors la tradition nous dit que le 6 janvier, donc fête de l'Épiphanie, trois choses se sont passées ce jour-là. Donc il y a eu, bien sûr, je veux dire, trois choses se sont passées un 6 janvier, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Donc vous avez d'une part, bien sûr, la visite des rois mages, vous avez aussi le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ et le miracle de Cana. Toute la tradition de l'Église a constamment annoncé ces choses-là. Et on le trouve, je vais essayer de retrouver le texte là, on retrouve ce témoignage, si vous voulez, que ces trois choses se sont effectuées le même jour, dans une antienne des vêpres de l'Épiphanie. Voilà, c'est là, j'ai le texte ici, donc pour l'antienne de un magnificat des deuxièmes vêpres de l'Épiphanie. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Trois miracles pour marquer le saint jour que nous fêtons, c'est-à-dire le 6 janvier, fête de l'Épiphanie. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche, première Épiphanie. Deuxième Épiphanie, l'eau s'est changée en vin à la table des noces, et les disciples crurent en notre Seigneur, deuxième Épiphanie. Troisième Épiphanie, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain afin de nous sauver. Vous voyez donc, si vous voulez, de même que l'apparition des rois mages à la grotte représente l'arrivée des gentils, donc qui viennent adorer notre Seigneur Jésus-Christ, et bien de la même façon, si vous voulez, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ et les faits extérieurs qui vont être vus pendant le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, la voix de Dieu le Père qui se manifeste et qui a été entendue par tous ceux qui étaient présents à ce baptême, la colombe qui vient se poser sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses extérieures ont été vues par des milliers de personnes, hein, toutes les personnes qui étaient là, et beaucoup de monde qui venait. Eh bien, donc cela va augmenter la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ chez les apôtres, les disciples et ceux qui venaient pour la première fois. Voilà le texte de l'oraison, également de la fête de l'Épiphanie, qui dit à peu près la même chose. En ce jour où, par le cours d'une étoile, vous avez conduit les peuples païens à la connaissance de votre Fils unique, nous vous demandons, Seigneur, qu'après nous avoir donné déjà de vous connaître par la foi, vous nous conduisiez jusqu'à la contemplation face à face de votre sublime majesté, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, voilà ce que nous disent les pères de l'Église. La tradition nous dit que le Seigneur fut baptisé le 6 janvier, le même jour qu'il avait vu adoré par les mages 30 ans auparavant. Donc là, il y a des choses extraordinaires qui sont passées sur le plan historique, qui sont répertoriées par plusieurs saints et docteurs. Les Éthiopiens, le 6 janvier, en mémoire du baptême du Christ, non seulement s'aspergent avec de l'eau, mais s'y émergent totalement. Les Grecs ont la coutume, à minuit du 6 janvier, de tirer de l'eau de la rivière ou source la plus proche, laquelle, par le don de Dieu, va rester douce et sucrée pour plusieurs années. Et saint Jean Chrysostome nous dit expressément qu'en ce jour du 6 janvier, l'eau du Nil se transforma en vin. Car en un 6 janvier, le Christ fit son premier miracle à Cana de Galilée. C'est pourquoi ce changement miraculeux a lieu en divers endroits comme un signe divin pour les incroyants. Il y a même une coutume chez les Grecs orthodoxes russes, chez les orthodoxes russes, pardon, si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est le jour de la fête de l'Épiphanie, au 6 janvier, que les Russes, même dans les régions très froides de Russie, creusent un trou dans la glace et vont se baigner par les températures arctiques, hein, des températures très froides, et vont se plonger 3 fois dans l'eau du lac, en invoquant la Sainte Trinité à chaque fois. Et même le président de Russie, M. Poutine, a eu le courage de le faire devant tout le monde. J'aimerais bien voir M. Macron faire la même chose en France, manifester sa foi. Mais vous voyez, tous ces miracles nous aident à comprendre la grandeur de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive, donc extérieurement, il cache sa divinité. Mais dans certains cas, sa divinité va réapparaître, comme par exemple au cours de cette manifestation de sa divinité par les gestes extérieurs, les actes extérieurs de l'arrivée de la colombe et de la voix du Père qui va manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils. Donc il y a d'autres exemples qu'on trouve chez les pères, d'autres exemples historiques. Ils disent qu'à Sibiris, une fontaine de la ville de Caria, j'ignore totalement où était la ville de Caria, je pense que c'est une ville du Moyen-Orient, elle vit se transformer, son eau se transformer en vin au moment même où le Christ disait « Tirez-en maintenant et apportez-la à l'organisateur de la fête ». À Gerasa en Arabie, il y a le même exemple. Saint Jean Chrysostome nous dit qu'il a bu à la fontaine de Sibiris et ses frères à celle de Gerasa qui est dans le temple des martyrs. D'autres témoignent du même miracle avec l'eau du Nil. Donc Jésus condescendit à apparaître devant Saint Jean-Baptiste, acceptant cette indignité pour nous, réparant la nudité et la honte, conséquence du péché d'Adam, et nous couvrant de sa grâce. Vous voyez, on trouve là dans la nudité de notre Seigneur, donc il va se dévêtir pour se plonger dans l'eau du Jourdain, être baptisé par Saint Jean-Baptiste, on retrouve la même humiliation que notre Seigneur va renouveler juste avant la crucifixion. Donc il va être dévêtu, Jésus enlève ses vêtements, et il va être dévêtu et cloué simplement avec un simple pagne, une espèce de short si vous voulez, et notre Seigneur Jésus-Christ va accepter cette terrible humiliation de devoir être exposé dans sa nudité au regard de tout le monde pour réparer tous les péchés d'impureté, les péchés de vanité, les péchés de sensualité. Et je pense que il faut que les catholiques pensent à ces choses-là, surtout pendant les périodes d'été quand il fait très chaud. Il faut qu'une mère de famille catholique, une épouse catholique, une jeune fille catholique, les hommes aussi dans certaines mesures, mais surtout les femmes, avant de se mettre une robe d'été sur le dos ou s'habiller pour sortir, qu'elles se mettent devant la glace en disant: est-ce que je peux, avec l'habit que j'ai sur les épaules actuellement, est-ce que je peux honorer la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je peux honorer ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur moi? Et puis, il faut qu'elle considère une image de notre Seigneur Jésus-Christ juste avant la Passion, lorsqu'il s'est dévêtu de ses vêtements, pour se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est devenu nu, si vous voulez, s'est enlevé ses vêtements pour rattraper tous les péchés provoqués justement par ce manque de vêtements dans le monde moderne, qui est terrible. Rappelez-vous la belle expression du pape Pie XII que j'ai souvent cité en sermon. C'est Pie XII qui parlait déjà en son temps, autour des années 45-50. Hein. Pie XII qui parlait de ces vêtements qui commencent trop tard en haut et qui finissent trop tôt en bas. Vous voyez? Eh bien, là, c'est la même idée. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, va se accepter de se dénuder, si vous voulez, devant les yeux de tous ceux qui étaient là, pour être baptisé par Saint Jean-Baptiste, pour rattraper encore une fois tous les péchés. Il conseille les pères de l'Église sont très nets. Jésus condescendit à apparaître nu devant Saint Jean-Baptiste, page 24 en haut, acceptant cette indignité pour nous, réparant la nudité et la honte, conséquence du péché d'Adam, et nous couvrant de sa grâce. D'où l'importance, j'ai parlé très souvent de cette vertu de pudeur, hein, qu'il faut instituer aux enfants, surtout aux petites filles, mais aussi aux petits enfants, aux petits garçons, hein, quand ils sont petits, pour leur apprendre à ne pas se promener tout nu devant tout le monde. Vous voyez, pour leur donner cette pudeur qui est une protection, comment dire, c'est ça, une protection de la vertu de chasteté, une préparation à la vertu de chasteté. Donc, contemplons dans cette méditation que nous faisons ensemble à partir des textes des Pères, parce que l'exégèse, c'est aussi ça, hein, l'exégèse, c'est aussi une contemplation à partir du texte sacré. Donc, contemplons notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte de se dénuder pour attraper les péchés contre le sixième et le neuvième commandement. Page 24 du Polycopier, verset 16, du chapitre 3. Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Et voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe qui vint sur lui. C'est un texte qu'il faut mettre en parallèle avec le texte très connu de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui monte au sommet du Tabor avec Saint Jean, Saint Jacques et Saint Pierre, et qui va être transfiguré devant eux, et il va y avoir un peu la même chose. On va entendre la voix du Père qui va se manifester avec pratiquement la même phrase: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me suis complu, en qui j'ai mis mes complaisances. Eh bien, il faut bien méditer ces choses-là pour comprendre un petit peu ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Voilà ce que disent les pères, donc à la page 24, sous le texte du verset 16 du chapitre 3e de saint Matthieu. Ce qui se passe en Jésus-Christ représente le mystère qui devait se produire en nous, qui devait se produire dans ceux qui devaient être baptisés par la suite. C'est pour cela que l'évangile ne dit pas simplement il monta, mais il monta aussitôt, il sortit aussitôt hors de l'eau. Parce que tous ceux qui reçoivent le baptême de Jésus-Christ avec les dispositions convenables montent aussitôt hors de l'eau, c'est-à-dire marchent de vertu en vertu et s'éloignent, s'élèvent à une dignité toute céleste. Hein? N'oublions pas que le baptême, surtout pour un adulte, le baptême efface tous les péchés. Il efface aussi tous les péchés d'un bébé, mais comme le bébé n'a que le péché originel, il n'y a que le péché originel qui part. Par contre, un adulte a tous ses péchés actuels qu'il a commis depuis la naissance. Eh bien, lorsqu'on baptise un bébé, un adulte, eh bien, tous les péchés disparaissent. J'explique souvent ça quand j'ai le bonheur de baptiser les adultes, ça m'a encore arrivé il n'y a pas très longtemps, quelques mois là, ou quelques semaines. Eh bien, lorsqu'on baptise un adulte, je lui dis: avant, attention, je vais vous baptiser maintenant, et vous allez vous retrouver avec l'âme d'un bébé, hein. L'âme d'un petit bébé qui sort du baptême, une âme toute pure. Il y a deux fois que le baptême efface tous les péchés et efface aussi les peines temporelles dues au péché, c'est-à-dire les peines du purgatoire. Donc, quelqu'un, un adulte qui mourrait juste après le baptême, il irait droit au ciel. Droit au ciel. C'est pour ça qu'on compare, les pères de l'Église comparent le baptême à un martyr. Le martyr, c'est un acte de charité parfaite, le baptême aussi. Donc quelqu'un qui meurt comme martyr, même s'il n'est pas baptisé, bien, il est baptisé dans son propre sang. Et, encore une fois, c'est des choses très importantes à opposer aux finéistes, donc, qui nient tous systématiquement l'existence d'un baptême de sang. Je voudrais vous montrer à ce sujet-là, j'ai lu ce matin dans l'office de prime. Donc j'ai lu le martyrologe donc du 12 avril. Et là, il y a un passage, je vais essayer de vous retrouver, je vais le trouver là, justement, qui rappelle l'existence du baptême de sang. Non, je ne retrouve pas le texte là, mais le martyrologe ce matin, donc le martyrologe pour le, je pense pour le 12, c'est ça, pour le 12 avril, ou pour le 13 avril, pardon, le martyrologe parlait d'un saint Victor, donc, qui était encore catéchumène, si mes souvenirs sont exacts, c'était un soldat, et il dit dans le texte du martyrologe, encore une fois, que ce saint, saint Victor, martyr, a été baptisé dans son propre sang. Donc, en fait, la raison est toute simple, c'est que un acte de charité parfaite efface tous les péchés et toutes les peines du péché. Donc, un acte de charité parfaite ouvre la porte du paradis immédiatement. Et si quelqu'un meurt dans un acte de charité parfaite, il va droit au ciel. Le martyr, Le baptême de sang, c'est un acte de charité parfaite. On fait la même chose, en fait, lorsque, avec la grâce du bon Dieu, on obtient la grâce d'un acte de charité parfaite, même sans martyr. Par exemple, si j'ai le malheur de commettre une faute grave et que je mets à genoux devant le bon Dieu, devant mon crucifix, et je pleure avec des larmes d'amour en disant, mon Dieu, je vous demande pardon de ce que j'ai fait, je ne peux pas me confesser tout de suite parce que je n'ai pas malheureusement un prêtre à ma disposition immédiatement, mais je vous demande pardon de tout mon cœur pour ce que je viens de faire, je suis un misérable, je vous demande pardon, avec votre grâce, je vais pu recommencer m'en confesser au plus tôt. Et si on regrette ses péchés par pur amour du bon Dieu, ça correspond à un martyr, hein, dans le sens que ça efface non seulement ça efface tous les péchés, pas simplement les péchés véniels, mais même les péchés mortels. Les péchés mortels sont effacés par un acte de charité parfaite. Alors, voyons donc maintenant à la page 24, on va avancer un petit peu, peut-être même terminer le chapitre 3e qui est relativement court dans saint Matthieu. Donc, Jésus ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau, et voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe qui vint sur lui. Donc, encore une fois, on voit bien ici le symbole de la Sainte Trinité. Ils étaient entrés dans l'eau tout charnels, et enfants d'Adam prévaricateurs, et ils en sortent aussitôt tout spirituels avec le titre d'enfant de Dieu. Ce que nous disent les pères, donc le baptême, tout baptême d'adulte, à l'époque on baptisait les adultes, c'est simplement pas encore les enfants, et bien le baptême d'adulte justement nous donne ce titre extraordinaire d'enfant de Dieu, et à cause de ce titre d'enfant de Dieu, et bien nous pouvons, si nous mourons dans cette amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons aller au ciel. Il faut rappeler aujourd'hui envers et contre tout ce point extrêmement important, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, que les points les plus importants à défendre sont les points les plus attaqués par les ennemis de l'Église. Un des points les plus attaqués par Bergoglio, c'est le baptême. Puisque vous savez qu'il a osé dire plusieurs fois cette hérésie énorme, monstrueuse, qui consiste à dire que tous les enfants sont les enfants de Dieu. Or, l'Église catholique a toujours enseigné pendant des siècles et des siècles, et enseignera jusqu'à la fin des temps, que le baptême donne le caractère d'enfant de Dieu. Un enfant qui n'est pas baptisé n'est pas un enfant de Dieu. Et donc, si un enfant non baptisé n'est pas un enfant de Dieu, il est un enfant du démon. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. On a un mal fou, même pour nous catholiques. On voit, moi, ça m'arrive tout le temps, quand je baptise un petit bébé, qui est dans son berceau, tout petit poupon, tout mignon, tout rose, et tout beau, juste après quelques heures après sa naissance, et que je baptise ce bébé, j'explique aux gens qui sont là, aux parents, à la famille, aux parrains et marraines, je dis, vous voyez ce petit enfant qui est tout mignon, qui nous sourit là, on ne se rend pas compte, mais c'est un fils du démon actuellement. C'est un fils du démon parce que le démon possède cette âme. Il est propriété du démon jusqu'à son baptême. Et lorsque le prêtre baptise l'enfant, c'est très net dans tous les exercices qui vont précéder le baptême aussi, le prêtre va dire « Exi abeo, et dalocum spiritui santo paraclito ». Il parle au démon, sort de cet enfant et laisse la place à l'Esprit Saint, le paraclet. Vous voyez, donc il y a vraiment un combat, si vous voulez, par le baptême, et qui va provoquer la fuite du démon. Donc ce bébé qui était enfant des ténèbres devient enfant de lumière. Ce bébé qui était enfant du démon, qui appartenait à l'armée du démon, va appartenir à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le caractère baptismal qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc on peut dire et on doit dire bien sûr que les juifs ou les musulmans sont des créatures de Dieu. Évidemment, tous les hommes sont des créatures de Dieu puisque tous les hommes sont créés par Dieu, c'est évident. Mais tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Créatures de Dieu, oui. Enfants de Dieu, non. Seuls les baptisés sont enfants de Dieu. Et même s'ils ne s'appelaient pas Bergoglio, ce serait comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, je reprends ce texte. Donc, troisième paragraphe de la page 24. Ils étaient entrés donc dans l'eau tout charnelle et enfants d'Adam prévaricateur, ils en sortent aussitôt tous spirituels avec le titre d'enfant de Dieu. Mais elle ne le considérait que comme homme. Est-ce que les cieux lui furent ouverts alors pour la première fois, la foi d'Église, et qu'ils lui furent ouverts aussi bien avant qu'après? Pourquoi? Si donc il est dit ici qu'ils lui furent ouverts, c'est parce que la porte du ciel s'ouvre pour tous ceux qui sont régénérés dans les eaux du baptême. C'est évident que la porte du ciel a été ouverte pour notre Seigneur Jésus-Christ bien avant, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que le baptême est la porte des sacrements. Donc, c'est une ouverture de la porte qui nous permet d'accéder à tous les sacrements. Donc, Saint Jean Chrysostome explique que l'Esprit Saint a voulu paraître sous la forme d'une colombe, parce que de tous les animaux, la colombe est celui qu'il cultive. Le plus, le sentiment de l'amour. Toutes les espèces de vertus que les serviteurs de Dieu ont dans la vérité, les serviteurs du démon peuvent les avoir en apparence. Il n'y a que la charité seule de l'Esprit Saint que l'Esprit immonde ne puisse contrefaire. On pourrait dire aussi avec l'humilité. Rappelez-vous cette apparition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a une seule chose que tu fais que je ne puis faire. M'humilier. Donc, la charité, l'humilité étant la base de la charité, ne sont des vertus que l'esprit monte, c'est-à-dire le démon ne peut contrefaire. C'est pour cela que l'Esprit Saint s'est réservé cette vertu particulière, car il n'y a point de témoignage plus évident de sa présence dans une âme que la grâce de la charité. Alors, les pères de l'Église explique pourquoi la colombe est le symbole de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup d'explications que les pères donnent, qui sont splendides. On trouve tout ça aussi chez Saint Thomas, qui va en parler plusieurs fois dans sa somme théologique. La colombe nous représente, ça c'est Rabbin Mort, un père, je sais, considéré comme un père de l'Église, même s'il n'est pas canonisé. Rabbin Mort, qui a dit beaucoup de choses qui sont reprises souvent par Saint Thomas. La colombe nous représente aussi les sept vertus propres à ceux qui sont baptisés. Il y a les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et les quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc la colombe habite sur les bords d'une eau courante. Aussitôt qu'elle aperçoit l'épervier, elle s'y plonge pour lui échapper. Elle choisit toujours le meilleur grain, elle nourrit les petits des autres oiseaux, elle ne déchire pas avec son bec, elle n'a pas de fiel, elle fait son lit dans le trou des rochers, et pour son chant, elle n'a que son gémissement. Eh bien, cela représente un peu, le travail que doit faire le viateur, c'est-à-dire celui qui est sur la via, sur le chemin qui mène au paradis, qui est un combat terrible contre tous les ennemis de la vie spirituelle. Et ensuite, donc, les pères font la comparaison entre ce qui vient d'être dit sur les caractéristiques de la colombe avec la vie du chrétien, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, dit-il, que les saints habitent au bord des courants de la parole divine pour échapper aux attaques du démon. Ils choisissent pour nourrir leur âme les saintes maximes, de préférence aux maximes des hérétiques. Ils nourrissent du pain de l'exemple et de la doctrine de ceux qui se sont montrés les enfants du démon en l'imitant. Ils ne corrompent pas les vérités saintes en les déchirant à l'exemple des hérétiques. On ne voit point en eux de colère sans raison. Ils placent leur nid, c'est-à-dire leur refuge et leur espérance, dans les plaies de Jésus, qui est pour eux la pierre ferme, et toute leur joie est de gémir sur leurs péchés, comme la joie des enfants du monde est de se livrer au plaisir, au champ du plaisir. Et donc on voit très bien là le symbole qui est derrière, c'est-à-dire la pureté de la colombe. La colombe est un animal qui était considéré par les anciens comme un animal très chaste. Pourquoi? Parce que ils disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils disent que le couple de colombes reste, les deux restent ensemble, le mâle et la femelle, pour toute la vie. Et donc c'est le symbole de la chasteté et aussi de l'attachement d'une âme à notre Seigneur Jésus-Christ, qui devrait être aussi un attachement définitif. Et elle gémit tout le temps, et ce gémissement de la colombe, ce roucoulement de la colombe qu'on entend très souvent pendant les jours d'été, bien, ce roucoulement de la colombe représente justement le gémissement le gémissement des chrétiens qui gémissent sur leurs péchés. Et voilà pourquoi la colombe va apparaître au baptême de notre Seigneur. On retrouve d'autres idées de ce genre encore chez saint Jean Chrysostome. Ce prodige nous rappelle aussi un fait des premiers temps. Nous voyons en effet à l'époque du déluge apparaître la colombe portant un rameau d'olivier, annonçant à tout l'univers le retour du calme et de la paix, figure de ce qui devait arriver par la suite. Car c'est encore la colombe qui nous apparaît pour nous montrer notre libérateur et pour apporter aux gens humains, au lieu du rameau d'olivier, le bienfait de l'adoption divine. Donc la colombe amène le rameau d'olivier qui est le symbole de la paix. La paix entre qui et qui? La paix entre l'âme et Dieu. Avant le baptême, l'âme est en guerre parce qu'elle appartient au démon. Le baptême va enlever le péché originel et ramener cette âme dans la paix. Voilà pourquoi il y a cette colombe qui symbolise justement cette paix. Alors en bas de la page 24, vous avez, j'ai mis un texte de saint Thomas d'Aquin qu'on trouve dans Tertia Pars, question 39, verset article 6, la réponse à la quatrième objection. Le pouvoir céleste du baptême, bas de la page 24, doit être ici pointé du doigt, car par lui, les hommes charnels deviennent célestes et spirituels et sont pris par la main pour aller au ciel. Tous les dons du Saint-Esprit sont signifiés donc par la colombe. D'abord la sagesse, parce que la colombe vit près des eaux courantes et pouvant voir dans les eaux le reflet des perviers, elle tente de se mettre à l'abri. C'est de prudence qui vient de la sagesse. Le don d'intelligence, elle sélectionne les meilleurs grains de maïs et les place en tas. Le don de conseil, la colombe élève les petits des autres. La science, elle ne déchire pas avec son bec. La piété, elle est sans bile ni amertume. La force, elle fait son lit dans les rochers. Et la crainte de Dieu, elle chante une complainte douloureuse au lieu d'un vrai chant représentant le Christ et ses saints pleurant pour les péchés, les saints, les leurs ou ceux des autres. Oui, donc la colombe, encore une fois, est le symbole de l'âme contrite, de l'âme purifiée par le sacrement de pénitence, qui se présente à Dieu en gémissant pour obtenir le retour, si vous voulez, comme le retour de l'enfant prodigue, le retour dans la famille de notre Seigneur Jésus-Christ, par le baptême et par l'absolution sacerdotale. Enfin, page 25, je vais terminer le chapitre 3 aujourd'hui, ça sera plus simple. Donc, verset 17 du chapitre 3, voici qu'une voix du ciel disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me suis complu. Donc c'est tout le mystère, l'enseignement constant des pères, tous les pères disent la même chose. Le mystère de la Sainte Trinité nous est révélé dans le baptême de Jésus-Christ. Le Fils qui est baptisé, l'Esprit Saint qui descend sous la forme d'une colombe, et le Père dont la voix rend témoignage à son Fils. Donc on voit les trois choses, donc le Père qui parle, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me suis compli. Le fils qui descend dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Saint-Jean-Baptiste. Et la colombe qui représente le Saint-Esprit. Quoique le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'aient qu'une seule et même nature, nature divine, cependant, vous devez croire très fermement qu'ils forment trois personnes distinctes. Le Père donc se fait entendre par ses paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Fils, sur lequel a retenti la voix du Père, et l'Esprit Saint descendu sur le Christ, après son baptême sous la forme d'une colombe. Donc là, on voit déjà le symbole de la Sainte Trinité réelle. Même si le mot Sainte Trinité n'est pas prononcé dans la Sainte Écriture, n'est pas prononcé même dans l'Ancien Testament. Cependant, la Sainte Trinité a toujours été crue, depuis le début. Même si, si vous voulez, l'institution de la Sainte Trinité, je ne dis pas l'institution, la connaissance de la Sainte Trinité, on va venir vraiment avec le Nouveau Testament. Cependant, dans l'Ancien Testament, on a déjà toute une série de signes qui annoncent la Sainte Trinité. Par exemple, le pluriel de majesté qui est utilisé souvent, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ce n'est pas « Je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance », c'est « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Pour bien marquer que c'est la Sainte Trinité qui est derrière. Il y a trois personnes de la Sainte Trinité. Donc il n'y a pas qu'une personne au singulier, mais trois personnes au pluriel. Alors, en bas, le verset 17 du chapitre 3, page 25. Celui-ci, un texte, je crois que c'est Saint Augustin qui dit ça, j'ai pas le nom là, mais je pense que c'est lui. Celui-ci est mon Fils qui est en moi, qui est de moi, avec moi pour toute l'éternité. Il est mon Fils qui n'est pas distinct de moi en divinité, ni divisé en puissance, ni séparé par l'éternité. Il est mon Fils, le mien propre, non créé d'une autre substance, mais engendré par moi. Il est mon Fils par qui toutes les choses sont faites. Il est mon Fils qui, sans aucune présomption, n'a pas craint son égalité avec moi, se roulant dans la forme de ma gloire, afin de pouvoir remplir notre but commun, la restauration de la race humaine, lui qui abaisse sa divinité jusqu'à la forme d'un esclave. Donc Dieu va cacher sa divinité, même si elle apparaît ici indirectement, si vous voulez, d'une façon encore un peu voilée, hein, parce que tous ceux qui ont assisté à ce baptême de notre Seigneur Jésus-Christ ont entendu cette voix, mais n'ont pas forcément compris ce que ça voulait dire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est Dieu le Père qui parle et qui annonce justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils. Voilà, c'est la continuation de ce texte. En lui donc, je suis en toute chose satisfait. Par sa prédication, je suis manifesté, glorifié par son humilité. Écoutez-le sans attendre, car il est la vérité et la vie, ma force et ma sagesse. Écoutez-le, celui qui a été chanté par les lèvres des prophètes. Écoutez-le, celui qui a racheté le monde par son sang et qui, par sa croix, a préparé pour vous une échelle par laquelle vous pouvez monter au ciel. Donc le baptême, le premier barreau d'une échelle qui monte au ciel. D'accord ? Donc voilà, nous allons terminer le chapitre 3 de Saint Matthieu. Donc je vous rappelle qu'il est important que tous ceux qui veulent vraiment travailler ce cours s'obligent après le cours de relire les versets qu'on a expliqués. Là, relisez donc pour la prochaine fois, relisez tout le chapitre 3 de Saint Matthieu. Et puis relisez éventuellement, si vous avez un petit peu de temps, prenez sur vous de relire le texte du polycopié pour tout le chapitre 3. Si vous avez encore un peu plus de temps, vous pouvez commencer à lire le chapitre 4 et le texte polycopié qui est sur le site concernant le chapitre 4. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se prépare, qu'on ouvre son âme à la réception des explications données par les pères sur ce sujet qui est expliqué, donc le chapitre 3 de Saint Matthieu. Donc, prochain cours, si Dieu veut, mardi prochain. Donc, on va terminer par une petite prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.